Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bernard Abouaf au micro, bonjour à tous. On se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Lemel, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
On se prépare aussi pour les fêtes de Shavuot et on peut se dire Chag Sameach ou pas? Oui.
Oui, bien sûr.
Ouais. Allez. Déjà, on ne boude pas notre plaisir. À chaque fois, on fait pareil. On dit, ben tiens, on en profite aussi pour se dire de bonnes fêtes, quelle que soit la fête qui arrive. Nous continuons de survoler, comme chaque semaine, la paracha, c'est-à-dire ce passage de la Torah que nous lisons dans nos communautés. Et donc, aujourd'hui, on arrive à un nouveau livre, Tout Seigneur, Tout Honneur, c'est Bamidbar. Et Bamidbar, qui veut dire désert, parle d'un, dans le désert, parle d'un sujet tout à fait particulier, puisqu'il parle des drapeaux dont étaient garnis, que brandissaient les tribus d'Israël dans leur avancée dans le désert. Et alors, chaque année, on se pose la question, mais pourquoi c'est tellement important de nous décrire avec autant de précision? Alors, les noms des tribus, on a l'habitude, on sait, c'est parce que oui, c'est vrai, ils sont tous importants. Okay. Mais pourquoi, Rav Eli Lemel, autant d'importance pour cette affaire de drapeau des tribus d'Israël dans le désert?
Exact. Alors, en effet, le texte nous dit « Ish al diglo b'achat l'bet avatam yachanu b'nei Israël b'otot livnei » Donc, chaque personne suivant son drapeau, suivant ses signes de la maison de ses pères, ils s'installeront les enfants d'Israël. Donc, c'est-à-dire que chaque tribu avait en effet un drapeau. Il y avait surtout une place particulière à l'intérieur du mouvement que le peuple d'Israël opérait dans le désert. Il faut bien savoir que les tribus étaient installées autour du Mishkan, autour du sanctuaire, et elles étaient installées par groupes de trois. Et la manière dont elles étaient organisées faisait que si vous aviez une vue de haut, eh bien, vous vous retrouviez avec quelque chose qui était qui était un Magen David. Et donc, le texte nous dit la chose suivante. On a un midrash très intéressant qui nous dit que au moment où Dieu se révèle sur le Sinaï, eh bien, on a donc des malachim, on a des anges qui arrivent, et ils sont là aussi avec des drapeaux. Ils sont avec des drapeaux, et les enfants d'Israël, eh bien, ont un désir, hit à vous. Eux aussi, on dit, nous aussi, on veut des drapeaux. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu a dit, ben, ça serait super, en effet, je suis pour qu'ils aient des drapeaux comme eux. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont avoir tous leur fameux drapeau. Alors, de quoi il s'agit évidemment? La notion du drapeau, ici, d'abord le terme drapeau en hébreu, dégel nous renvoie au mot gadol. D'accord? Vous savez qu'en hébreu, les mots, on peut les organiser autrement au niveau des lettres. Dégel, c'est les mêmes lettres que le mot gadol. Gadol, ça veut dire quelque chose de grand. Traduction, le drapeau révèle la grandeur de l'individu, traduit de manière différente, c'est sa spécificité, c'est sa singularité qui s'exprime. Et c'est vrai que le premier point qui était important, c'est que dans le peuple d'Israël, on se rappelle que chaque tribu avait une dimension de singularité qui était incarnée par ce drapeau sur lequel il y avait une représentation de sa dimension particulière. On pourrait d'ailleurs les analyser, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, et de voir en effet que chacune des tribus avait un insigne particulier. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que eh bien, derrière cela, eh bien, qu'est-ce qu'ils veulent au fond? C'est-à-dire qu'est-ce que les enfants d'Israël cherchaient avec cette histoire de drapeau? Quel était le but? Eh bien, ils cherchaient à se retrouver dans la dimension des malachim, dans la dimension des anges, car en effet, eh bien, on sait que les malachim, les anges, omrim, ils disent, comme on le dit d'ailleurs dans la Kedusha, eh bien, ils se donnent les uns aux autres la possibilité d'exprimer la louange à Dieu. Traduit de manière différente, le propre des malachim, des anges, c'est de savoir que la singularité de l'autre est fondamentale et il fait tout pour que l'autre exprime aussi sa singularité, c'est-à-dire remplisse sa mission à l'intérieur du peuple d'Israël. Ah, alors ici, ce n'est pas à l'intérieur du peuple d'Israël, ça c'est dans les sphères célestes. Et au fond, Dieu dit, mais qu'est-ce que je veux ça aussi? Je veux aussi qu'en effet, je suis pour, quand les enfants d'Israël voient ces drapeaux et qu'ils les veulent, eh bien, je suis très très pour à ce qu'en effet, dans le peuple d'Israël règne le même principe, c'est-à-dire que chacun est préoccupé par une chose, comment puis-je donner à l'autre les moyens de pouvoir exprimer pleinement ce qu'il doit être. Ça va être déjà le premier point. Et le second point, eh bien, c'est aussi de voir qu'il y avait donc un seder, c'est-à-dire qu'il y avait un ordre et que chacun avait une place particulière à l'intérieur de l'organisation du camp d'Israël. Il y a un texte qui nous dit la chose suivante, c'est dans le traité de Arachin, eh bien, il nous dit « Meshorer Sheshier Chayav Mita ». Meshorer, c'est celui qui chante. Sheshier, qui a voulu ouvrir la porte, il est coupable de mort. Alors, ce texte, bien sûr, quand vous lisez, vous ne comprenez pas nécessairement ce que ça veut dire. Celui qui chante et qui veut ouvrir la porte est coupable de mort. On parle de quoi? Eh bien, on parle tout simplement des Lévim. Les Lévim, les Lévites, avaient des fonctions particulières dans le temple. Et il y avait ceux qui étaient responsables de l'ouverture et de la fermeture des portes. Et puis, il y avait ceux qui était présent dans la chorale des Lévim. Et on nous dit, quelqu'un dont la responsabilité, c'était d'ouvrir les portes ou de chanter, et qui a décidé de son propre chef d'échanger avec quelqu'un, de dire, bon, ben, c'est très bien, moi, maintenant, j'ai commencé à chanter, toi, tu vas ouvrir les portes. Eh bien, Chayamité, il était coupable de mort. Traduit de manière différente, eh bien, tu ne peux pas, à un moment... désorganiser les choses. Tu ne peux pas, de ton propre chef, décider comment les choses vont s'organiser. Il y a un seder, il y a quelque chose qui a déjà été posé et on doit être dans le respect de cette dimension-là. D'ailleurs, il y a un midrash qui nous dit que, justement, le Aaron à Kodesh, l'Arche Sainte, eh bien, à un moment où les gens étaient dans une tension, les Lévim, qui va porter, comme il y avait presque des bousculades autour de cela, jusqu'au moment où on a réintroduit cette dimension du seder. Et cette idée du seder, eh bien, elle existe dans deux dimensions au moins. Il y a ce qu'on appelle le seder, le shem seder, c'est-à-dire l'ordre pour l'ordre. Et puis, il y a l'ordre qui est là pour pouvoir atteindre un objectif. L'ordre pour l'ordre, eh bien, c'est l'ordre dans sa nécessité, c'est l'ordre du comptable. Si les choses ne sont pas à leur place, eh bien, ça va être difficile de les retrouver. Mais il y a aussi cette idée du seder, c'est-à-dire de l'ordre parce qu'on a un objectif à atteindre et donc on est capable d'être dans ce qu'on appelle la gestion des priorités. Parce que l'expression de l'ordre, eh bien, c'est la capacité de savoir gérer ses priorités. Et il est intéressant de voir que cette dimension de Seder, elle était extrêmement présente dans l'univers de l'enseignement du Moussar, c'est-à-dire de tous ces grands maîtres qui ont enseigné le Moussar. On rapporte qu'il y avait un maître qui s'appelait Rav Zundel Misaland qui disait que eh bien, la base même de l'éducation, c'est d'apprendre à faire les choses calmement, sereinement, dans l'unité d'esprit et aussi de manière organisée, en capable bien sûr d'être dans le respect de l'autre. Et il disait que ça, c'est la base même de tout. C'est-à-dire, si on ne sait pas s'organiser, eh bien, on se retrouve après dans une vie dans laquelle on a fait des choses, mais on est passé peut-être parfois à côté de beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu faire. Et Rav Volbe, d'ailleurs, donne à ce sujet-là une image très intéressante. Il dit, c'est comme un collier de perles. Quand vous regardez un collier de perles, eh bien, a priori, la partie la plus importante dans le collier, on pense que ce sont les perles, n'est-ce pas? Les perles, elles sont jolies, elles sont bien. Or, en vérité, dit Rav Volbe, la partie la plus importante dans un collier de perles, c'est quoi? C'est le fermoir. Vous pouvez avoir des perles merveilleuses, il y a un fermoir en fer blanc, mais si vous n'avez pas de perles fermoir, eh bien, au bout d'un moment, la totalité des perles glisse, roule et se retrouve au sol. Et vous n'avez plus grand-chose. Il nous dit, ces perles, ce sont toutes les potentialités que nous possédons chacune et chacun d'entre nous. Chacune et chacun d'entre nous possède en effet de multiples potentialités. Seulement, ce qui va permettre de créer quelque chose de beau, c'est justement ce fermoir, c'est-à-dire le fait d'être capable d'ordonner les choses, de les mettre à leur place. Un des très très grands maîtres que notre époque a pu connaître, qui s'appelait le Rav Chaim Shmulevitz, était quelqu'un de connu pour être organisé, mais vous savez, c'était pas d'une organisation rigide. Chaque chose était à sa place dans tous les domaines, et c'est ce qui lui permettait justement de temps à autre d'ouvrir des parenthèses pour pouvoir s'occuper d'éléments qui n'étaient peut-être pas prévus dans le programme. Il ouvrait la parenthèse, il la refermait, il revenait vers son seder, il revenait à nouveau vers son ordre. J'ai moi-même pu être témoin avec un très très grand maître qui discutait donc avec ses enfants d'un certain sujet au niveau du Talmud, de la Gemara, et puis à un moment, eh bien, quelqu'un devait le voir, donc il s'est interrompu, il l'a écouté un certain temps, et puis après, quand l'autre a terminé, eh bien, il a repris exactement là où il en était. Pourquoi ? Parce que les choses étaient organisées dans son esprit. Alors voilà un petit peu ce que ce livre propose à travers la première paracha. Les Dgalim, ces fameux drapeaux, Gadol, la notion de la grandeur, être à l'image des Malachim, être à l'image des anges, c'est-à-dire connaître sa dimension particulière et unique et avoir envie que l'autre, dans sa dimension particulière et unique, joue son rôle à l'intérieur de l'histoire du peuple juif et de manière plus générale au niveau de l'humanité. Et puis aussi cette idée de mettre chaque chose à sa place, savoir être surtout dans ce qu'on appellerait des gestions de priorité, savoir à ce moment de ma vie quelles sont les choses les plus importantes, quelles sont les choses les plus fondamentales, et évidemment, à partir de cela, savoir comment on construit. On rapporte sur un très grand maître qu'il est parti un jour voir, rendre visite à son fils à la yeshiva, mais avant d'aller le voir, eh bien, il est d'abord rentré dans sa chambre et a regardé son armoire. Et quand il a vu que son armoire était extrêmement bien rangée, alors il aurait pu dire, bon, c'est peut-être même plus la peine que je le voie, je sais que tout va bien. S'il sait mettre chaque chose à sa place alors que c'est dans sa tête aussi, évidemment les choses doivent être bien organisées. Voilà en tout cas ce que nous propose comme réflexion ce texte, à nous de savoir bien sûr le mettre en application de manière extrêmement concrète.
J'ai entendu que Rav Shmulevitch n'avait jamais étudié la Torah en s'accoudant, c'est vrai ? Vous avez vu ça, vous ? On disait, même
moi,
je crois
qu'on
disait
vu,
qu'il était tout,
qu'il
avait un tel respect qu'il était debout.
Oui, il était debout. Il était debout très très souvent. Bon, c'était personne qui était capable d'étudier 18 heures d'affilée.
Sans s'accouder.
Parce qu'il... je ne pourrais pas témoigner parce que je n'ai pas été
ça.
À ses côtés.
Je crois que c'est
Rav
Tobiano qui nous avait dit ça.
Mais c'est sûr que c'était des personnalités très, très remarquables et si on a pu les connaître un tout petit peu, eh bien elles doivent rester pour nous source d'inspiration.
Ravi Lilamel, moi j'ai ce plaisir de vous écouter tous les vendredis depuis des années et en vous écoutant aujourd'hui, je me disais que vous avez un enseignement sur lequel vous insistez beaucoup, qui est non seulement que chacun est à sa place, mais on l'a vu, hein, de manière émancipatrice, c'est pas de manière... On a entendu ce que vous avez dit. Mais vous avez aussi une autre idée dans votre enseignement, qui est de trouver la bonne distance.
Toujours être à la bonne distance pour savoir penser et comprendre les choses comme il se doit.
Je me disais que c'était lié à ce que vous venez de dire aujourd'hui. Par exemple, à Maguette David, chacun sa bonne distance avec les choses. Ravi Lilamel, je vous remercie. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Et nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom. Bah oui, absolument, et on, avec grand plaisir, on va se dire Chag Sameach aussi. D'ailleurs, Rav Mordechai, vous avez envie, vous, de faire un peu le lien entre la fête de Shavuot et notre parasha de cette semaine qui, on vient de le dire, avec Rav Lemel et Bamidbar. Alors d'abord, il faut déjà savoir une chose, c'est que c'est toujours comme ça. Les parachiotes tombent plus ou moins à côté des fêtes et ça n'est pas le fruit du hasard. Donc là, bah justement, on a la paracha qu'on vient de citer, Bamidbar, qui tombe à côté de Shavuot. Et donc les sages ont essayé de voir un peu les concordances entre les deux, qu'est-ce qui peut lier l'un à l'autre. Et Shavuot est la fête du don de la Torah et Bamidbar évoque une idée de perfection. Alors pour moi, la perfection, c'est quelque chose de totalement inhumain. En tout cas, comme je parle de moi, pour moi, c'est totalement impossible. Et je dis ça évidemment sans ironie. Mais il y a une idée de perfection à atteindre comme un objectif dans le peuple juif.
Alors, en fait, cette paracha, elle est très surprenante. Une paracha qui est entièrement consacrée à l'ordonnancement du camp des Bnei Israël, chacun derrière son drapeau, le recensement, la place... à l'intérieur même de ce qu'on appelle le Machane Shrina, le camp de la présence divine autour du tabernacle, autour du Mishkan, la place des Lévim, le nombre des Lévim, etc. Donc, si vous regardez bien aussi le recensement, vous verrez que vous ne trouverez jamais une tribu avec, par exemple, je ne sais pas moi, 15 247 personnes. C'est toujours des chiffres ronds. 240, 550, etc. Donc, si vous voulez, ce recensement-là, en vérité, c'est un recensement des Neshamot. Dans Amisraël, il y avait 600 000 et quelques Neshamot Shorashim. Il y avait des sources de Neshamot, d'âme, de présence divine. Et c'est ça qui est recensé dans cette parasha. Donc on vient ici nous expliquer que voilà, le Bnei Israël, les Bnei Israël, les enfants d'Israël sont disposés dans un camp, chacun à sa place, chacun à son rôle, et chacun dans sa place et son rôle exprime son essence et ce qu'il est venu faire dans le monde. Et nos sages nous disent que ce camp-là, c'est le reflet du camp des Malachim, c'est le reflet du camp des anges qui entourent en quelque sorte le trône céleste, le trône divin. Voilà à peu près la description qui est donnée par le Midrash. Donc, ça évoque tout de suite l'idée de perfection. Am Israël, le peuple juif, dans sa perfection, qui reflète la perfection du camp des anges autour de Dieu, qui lui-même est l'incarnation de la perfection totale. Très bien. Maintenant, quand on lit le Sefer de Bamidbar, c'est le Sefer de toutes les bêtises qu'il ne faut pas faire. D'accord ? Dans les prochains parachats, on va parler du Nazir, qui est quelqu'un qui se prive, mais bon, sur lesquels nos sages ont un avis un peu sceptique. La femme sota, c'est celle qui femme son mari. Puis ensuite, après, on va rentrer dans les Miraglim, les explorateurs, Korach, les Marloquettes. Plus tard, à la fin, on parlera de Balak et la prostitution collective des Bnei Israël lors de l'épisode de Shittim. Donc finalement, le livre, il démarre sur la description d'une perfection. Mais après, l'énoncé du livre, c'est à peu près l'énoncé de toutes les bêtises qu'il faut faire pour détruire le peuple juif ou pour abîmer son destin, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire dans cette paracha ? On est en train de nous dire qu'en fait, intrinsèquement, le juif possède une neshama, une partie divine, et que cette partie divine, elle est inaltérable, elle est son passeport pour accéder à la perfection que la Torah lui propose. Il y a un midrash qui est très intéressant. Le midrash est rapporté par le Sfat Emet, dans une de ses drachot, de ses cours, au sujet de paracha de Bamidbar. Il dit la chose suivante. Les nations du monde s'adressent à Dieu et lui disent « Pourquoi tu donnes la Torah aux Bnei Israël ? Pourquoi tu es proche des Bnei Israël ? C'est des fauteurs. » Alors Dieu leur dit « Pourquoi vous n'êtes pas des fauteurs ? Vous n'êtes pas des fauteurs, vous ?» Et là, Dieu leur répond, il leur dit « Il faut savoir que les Bnei Israël sont comme une petite fille. Une petite fille, en fait, une petite fille, quand elle fait un peu des bêtises, ben, son père, finalement, il n'est pas trop pointilleux avec elle. » Que veut dire ce Midrash ? Le Zohar dit la chose suivante. Il dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, Dieu, va répondre ici la chose suivante. Il va dire, lorsqu'un juif faute, sa neshama akdosha, la partie sainte de son être, s'enlève, s'extrait de lui en quelque sorte. Il reste complètement sous les lois de la nature, sous les lois de sa propre nature, qui est une nature donc, de ce, qui consiste à se défaire. Mais sa partie, sa perfection, celle-là, elle est inaltérable. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait, quelle que soit finalement l'attitude du juif, il y a une part inaltérable en lui de relation avec Hachem. Il y a une part qui est parfaite dans sa relation avec Hachem. Et pourquoi est-ce qu'on lit ça Shabbat et pratique, ça tombe très souvent le Shabbat qui précède Shavuot. En fait, le Shabbat, on le voit dans l'histoire de la sortie d'Égypte, a été donné au Bnei Israël avant même qu'ils reçoivent la Torah. À Mara, l'épisode est raconté dans Parashat Béchalar, les Bnei Israël ont reçu les lois du Shabbat. Même mieux que ça, en Égypte, les Bnei Israël, Moshe Rabbeinu lui-même, Moïse, a négocié le Shabbat avec Pharaon. Donc le Shabbat a été présent avant même que la Torah ne soit donnée. Comme si, en quelque sorte, on voulait nous dire que le Shabbat était une condition pour arriver à la Torah. Mais c'est quoi le Shabbat ? Nos sages nous disent, le Shabbat, c'est Me'en Olababa. C'est un avant-goût du monde futur. Autrement dit, lorsque les Bnei Israël observent le Shabbat, ils rentrent dans une vision du monde, une vision de leur place dans le monde, de leur rôle dans le monde, dans un processus de émouna, de foi, de bitachon, de confiance en Hachem, qui les place sur un terrain de perfection. Cette perfection-là, cette perfection spirituelle, cette possibilité d'accéder à une certaine perfection spirituelle, eh ben, elle est la raison pour laquelle on reçoit la Torah. Et en fait, cette paracha vient avant le don de la Torah, parce que finalement, elle nous dit la chose suivante. Pourquoi est-ce qu'on a mérité de recevoir la Torah ? Parce qu'il y a chez Avraham, Yitzhak et Yaakov, leurs descendants, et finalement tous ceux qui vont sortir d'Égypte, et finalement nous, les Juifs, qui sommes les continuateurs de cette tradition du Mont Sinaï, il y a chez nous un désir et une possibilité d'accéder à une certaine perfection. sur le plan spirituel, sur le plan humain. Et cette perfection-là, elle est incarnée par cette paracha, elle s'exprime dans le Shabbat, elle s'exprime dans le fait qu'on reçoit la Torah. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on reçoit la Torah chaque année. Chaque année, à Shavuot, on est jugé sur la quantité de Torah qu'on va recevoir. Ce qui dépend des décisions qu'on prend, notamment en matière d'études, la quantité d'heures qu'on va consacrer à l'étude, l'intensité qu'on va consacrer à l'étude, le projet qu'on a autour de l'étude, pas seulement le projet cognitif d'acquérir des connaissances, mais le projet humain qu'on peut avoir, de se structurer, de se construire, de se renouveler, de se relier à Hachem par l'étude de la Torah. Et là aussi, c'est intéressant parce que finalement, c'est quoi la Torah ? La Torah, c'est la pensée d'Hachem. Étudier la Torah écrite avec son dictionnaire écrit obligé, pardon, avec son dictionnaire obligé qui est la Torah orale, c'est finalement se donner la possibilité de comprendre ce qu'Hachem pense et dit. Et donc, finalement, de comprendre comment le monde fonctionne, quel est le plan du monde. Donc là aussi, une possibilité d'accéder à une possibilité d'achèvement personnel. Parce qu'il faut comprendre ici, le mot « perfection » en français, finalement, il est assez faible. Comme toujours en français, c'est toujours un peu faible le français pour expliquer des notions profondes liées à la Torah. Mais l'idée de perfection dans la Torah, elle est liée à l'idée d'achèvement. Par exemple, la shlemut en hébreu, c'est l'entièreté, c'est la perfection. Mais ça va avec le mot ashlama, qui consiste à se perfectionner. C'est quoi un individu parfait dans la Torah ? C'est un individu qui a conscience qu'il doit se perfectionner. Donc il est toujours dans ce processus de perfection. Et c'est le mot qui le dit. La shlemut et la ashlama. Shlemut, c'est la perfection. Ashlama, c'est d'aller vers la perfection. Un individu parfait, c'est un individu imparfait qui travaille dans un univers de perfection qui s'appelle la Torah et par exemple le Shabbat, pour parvenir à comprendre la perfection qui s'appelle la Torah. C'est ça, finalement, le projet qui nous est proposé, et c'est ce qui est incarné par ce trajet qui part de la Parashat Bamidbar pour arriver au don de la Torah, et pour nous permettre donc de faire cette expérience d'une relation parfaite avec Hachem. Voilà ce qu'on peut dire au sujet de cette Parashat, de cet enchaînement qui nous attend, en se souhaitant évidemment à tous et à chacun de se préparer à la fête. Il faut savoir que les mitzvot de la Torah, elles ont toute leur valeur par la préparation à la mitzvah. Donc là, ici, on doit se préparer finalement à recevoir la Torah. On a un Shabbat pour le faire quelques jours encore, et donc arriver prêt à recevoir ce magnifique cadeau.
Rav Mordechai, en vous écoutant, je me disais qu'il y a les deux mots que vous venez d'enseigner, qui sont Shlemut et Ashlama, mais je pense qu'il y en a un troisième, c'est Shalom, qui est d'ailleurs aussi le nom de Dieu. Mais la question que je voulais vous poser, c'est, en vous écoutant, est-ce qu'on pourrait aussi parler de shalom en le traduisant par plénitude ?
Oui, c'est vrai, on peut aussi aller là-dessus. Vaïchan ha'am, le peuple a campé, Vaïchan ben Israël, pour dire que les ben Israël ont campé au pied de la montagne, on dit Vaïchan, on utilise un mot au singulier. On peut dire, Rachid le dit tout de suite, que tout le monde était belève et chad, d'accord, était d'un même cœur, d'une même pensée, etc. Ça va dans le sens de cette plénitude que vous décrivez. C'est-à-dire que finalement, la situation de shalom est une situation dans laquelle chacun finalement est dans une relation équilibrée à l'autre. D'accord, on le sent bien aujourd'hui, où on manque de shalom à l'intérieur de Israël, et où finalement, petit à petit, tout le monde se réveille en se disant, oh, bah, venez, on se rapproche, venez, on essaye d'être un peu moins étrangers les uns aux autres. Et c'est vrai, cette notion de plénitude, elle va aussi avec la notion d'équilibre intérieur et d'équilibre dans la relation à l'autre. Tout ça fait partie de l'univers de la shlemut et du shalom, et qui fait que, comme dit le Yanouka Kadosh, donc ce rave aujourd'hui qui est très connu en Israël, qui est jeune, hein, il est dans moins de la quarantaine, il explique qu'on est tous des enfants d'Hachem. Et c'est important cette notion-là, d'être tous des enfants d'Hachem. C'est-à-dire que le peuple juif, il est dans sa plénitude et dans son équilibre, quand on a conscience que finalement, Hachem ne renonce à personne. Et personne n'a le privilège d'être le représentant d'Hachem. Il n'y a pas d'exclusivité. C'est-à-dire chaque juif représente cette parcelle divine. Donc c'est quelque chose qui est de nature à nous amener effectivement une certaine plénitude et un certain équilibre, une certaine sérénité dont on a tous besoin aujourd'hui, je pense.
Rav Mordechai Biton, merci. On va essayer de tendre vers cette perfection, même si elle est très éloignée de certains d'entre nous, dont moi. Et je vous souhaite Shabbat Shalom. Et Chag Sameach.
Shabbat Shalom et Chag Sameach.
Et nous sommes en ligne avec Rav Gueh. Bonsoir Rav Gueh, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Guay, vous voulez intervenir plus spécifiquement sur la fête de Shavuot et revenir sur ce qui a fait un casse-tête pour l'ensemble de nos maîtres. C'est une double affirmation concernant le don de la Torah au Mont Sinaï. La première chose, c'est que tout le monde sait que le peuple juif a dit « Naaseh v'nishma », nous ferons et nous comprendrons. Donc, à accepter librement le don de la Torah. Mais on voit bien dans les mêmes textes qu'on nous dit qu'en fait, on a été menacé. On a retourné même la terre, la montagne du Sinaï en nous disant « Si vous acceptez pas, je vous écrase ». Donc c'est difficile de menacer plus que ça. Et d'un autre côté, c'est difficile d'accepter plus librement que de dire « Je sais même pas ce que j'accepte, mais je dis oui parce que c'est toi qui me le demande ». Alors, comment est-ce que vous voulez nous aider à comprendre, nous éclairer, et qu'est-ce que vous voulez dire sur ce sujet ?
Alors effectivement, cette question est posée par énormément de commentateurs. La réponse du Midrash Tanhuma dans la paracha de Noach est très intéressante. Le Midrash Tanhuma nous dit que les Juifs, effectivement, deux jours avant Matan Torah, déclarent Naaseh v'nishma, c'est-à-dire nous ferons et nous entendrons après, c'est-à-dire nous sommes prêts à nous engager même sans connaître la teneur des 613 mitzvot, mais lorsqu'ils sont devant le mont Sinaï, ils veulent changer d'avis. Pourquoi ? Parce qu'ils découvrent qu'à part la Torah écrite, il va falloir aussi accepter la Torah orale. Et la Torah orale exige énormément d'efforts et rajoute énormément de règles, d'interdictions et différentes barrières, comme ils appellent les siagim, c'est-à-dire des protections pour ne pas transgresser l'interdiction de la Torah. Donc ça rajoute beaucoup de mitzvot, beaucoup d'interdits. Et à ce moment-là, les Juifs sont hésitants. Ils disent, bon, écoutez, la Torah écrite, d'accord, mais la Torah orale, non. Et Dieu leur dit, c'est à prendre ou à laisser. C'est ou les deux, ou rien. Et d'ailleurs, vous n'avez plus le choix. Vous vous êtes engagé pour la Torah écrite. En vous engageant pour la Torah écrite, vous êtes engagé pour la Torah orale. Et même si maintenant vous voulez changer d'avis, c'est trop tard. Vous risquez d'être pulvérisé par cette montagne. Alors ça, c'est l'explication, on va dire, classique, connue par la plupart. Je voudrais ici donner une autre interprétation. Je ne me rappelle plus qui est l'auteur, mais vous donner une nouvelle lecture. Vous savez, chacun d'entre nous, on est des fois pris par des émotions, des sentiments forts. On s'engage pour une cause. Ou tout simplement, on décide par exemple de faire des études. Alors on s'inscrit dans une fac, la fac de droit ou la fac de médecine par exemple. Puis arrive un moment où il y a des examens. C'est très compliqué parce qu'on nous demande énormément de connaissances. Ça exige de notre part énormément de travail, de révision, des fois des nuits blanches. Et à ce moment-là, on se dit, mais finalement, personne ne m'oblige d'être avocat, personne ne m'oblige d'être médecin. Pourquoi me forcer à faire un examen ? Je l'ai fait librement, ce choix. Mais tout le monde comprend que même si on a fait le choix librement d'être avocat, d'être médecin, tout le monde sait que ce n'est pas facile. Les études sont difficiles, exigeantes. Et donc, on savait à l'avance qu'il fallait se mettre dans un cursus avec des obligations, des rendez-vous qui sont les examens, pour nous forcer à bien intégrer, à bien réviser, à bien connaître, à bien maîtriser. Donc tout cela, on le savait à l'avance. Mais lorsqu'on prend une décision, évidemment, on a le droit de choisir le métier que l'on veut faire, et personne ne nous a forcé à le faire. Mais on savait au départ qu'il fallait se mettre des garde-fous. Parce qu'à un moment, on veut reculer, on dit « bon, c'est trop dur, j'y arriverai pas, j'ai pas envie, etc. » C'est ça l'être humain. Une envie, et puis il y a des hauts et des bas, on a des jours avec et des jours sans, des jours où on a la peine, l'envie, et puis des jours où on n'a pas très envie, on est un peu déprimé, on commence à douter de nous-mêmes. Eh bien, il faut qu'on se mette des situations où on ne peut plus reculer. Mais il faut les faire, il faut les prendre sur soi au départ. C'est-à-dire, au départ, je dis « Naaseh v'nishma », c'est un vrai choix, mais je suis conscient que viendra un jour où je voudrais reculer. Ou je me dirais, je regretterais, je dirais non, mais finalement la Torah c'est trop dur, c'est les vacances, je vais rester au lit, tant pis pour le Kriyat Shema qu'il faut lire avant un certain horaire. Bon, c'est du classique, on a tous ces problèmes, on a tous envie un jour de reculer. Mais à ce moment-là, Dieu nous dit, attendez, vous avez pris la Torah, c'est pas possible de faire des exceptions et de dire que non, aujourd'hui on n'y va pas. C'est une obligation, et si on ne le fait pas, c'est une faute. Et une faute est sanctionnée. Et finalement, l'être humain a besoin de choisir, de vouloir, mais aussi de se mettre dans des situations de non-choix. Quelque part, nous devons trouver des situations où on a l'obligation de faire, parce qu'on a choisi de se mettre dans une situation où on ne peut plus reculer. Et je pense que c'est une constante dans notre façon d'accomplir la Torah et les mitzvot. Toujours essayer d'avoir de l'envie, de l'enthousiasme, mais être très lucide et savoir que l'être humain est faible, qu'on a des jours où on n'a pas toujours envie. Et en sachant cela au départ, se mettre dans des situations où on n'a plus le choix. Et prenez un exemple, je vais vous donner un des exemples très concrets. Souvent je dis à mes élèves, effectivement, vous avez choisi de venir étudier jusqu'à, on va dire, 11h du matin. Maintenant, effectivement, un jour vous ne venez pas, je vais vous faire la remarque, où étiez-vous ? Mais attendez, monsieur le Rav, vous êtes gentil, mais beaucoup de gens vont travailler à 8h, à 9h. Je suis très sympa de venir jusqu'à 11h, donc s'il vous plaît. Je dis, mais écoutez, je vous rends service. Je sais très bien que c'est difficile de tenir sur le long terme. C'est pas facile de sacrifier ses premières heures à l'étude, alors que vous pourriez peut-être gagner de l'argent et aller travailler. Donc je suis là pour vous aider à réaliser ce que vous aviez envie de faire depuis toujours, et je sais que c'est pas facile au quotidien. Donc je suis là pour vous aider à surmonter les épreuves de la vie qui sont tout à fait logiques et normales. Et voilà ce que c'est cette Shavuot. Shavuot, c'est chaque année se dire, on s'engage. Et on s'engage même si c'est pas toujours, on n'a pas toujours l'envie, mais on s'engage, on a envie d'y aller, on a envie d'y arriver, on va se donner les moyens, et on va même se donner des garde-fous plus forts encore. Par exemple, on va prendre une chavruta. Alors je donne par exemple ce conseil à mes élèves, le soir, vous savez que vous avez du mal à sortir de la maison. Vous savez que vous avez du mal à étudier le soir parce que vous êtes fatigué après une journée de travail. Imposez-vous une chavruta, c'est-à-dire au moins au téléphone, ou bien quelqu'un qui arrive chez vous et qui vient avec sa Gemara pour étudier avec vous en chavruta, en binôme. Là, ça sera difficile pour vous, une fois qu'il est venu ce monsieur qui sonne à votre porte, de le renvoyer. Et vous verrez qu'une fois assis avec votre Gemara, avec sa Gemara, avec son livre d'études, bien, vous trouverez l'envie, vous aurez envie d'étudier. Au départ, c'est difficile, puis après, l'envie vient. Et vous n'allez jamais regretter ce grand moment. Donc mettez-vous dans des situations où, pour ne pas renvoyer chez lui votre chavruta, vous allez le faire au départ malgré vous, mais finalement, après, vous le ferez avec plaisir. Mais prenez en compte ces moments difficiles. Ne croyez pas que c'est parce que vous avez aujourd'hui l'envie que vous l'aurez aussi demain. Voilà un petit peu le message que je voulais transmettre avant Shavuot. On est dans la paracha de Bamidbar, ce Shabbat. Bamidbar, évidemment, c'est le désert, c'est-à-dire le moment où Akadosh Baruch Hu va compter les enfants d'Israël, va les organiser en dégalim, avec des drapeaux, avec des groupes de 3 tribus, aux 4 points cardinaux. 3 tribus aux 4 points cardinaux, ça fait 3 × 4, 12 tribus. Au centre, il y a les Lévi'im et le Beth Amikdash. Comme pour nous dire que pour réunir les 12 tribus d'Israël, ce qui est le trait d'union, c'est le Beth Amikdash, le sanctuaire qui est au milieu, c'est-à-dire que c'est ce qui nous réunit, le fait de faire ce travail, ce service divin, qui est notre projet à tous, et ce projet commun, c'est ce qui nous réunit. Eh bien, réunissons-nous autour de ce projet divin qui est l'étude de la Torah, qui est la pratique des mitzvot, et mettons-nous dans des situations où on n'aura pas le choix que de continuer à faire ce qu'en fait, au fond de nous, nous voulons faire, mais que de temps en temps, comme chaque être humain, on a des hauts et des bas. Eh bien, on les assume, c'est haut et c'est bas, et on continue, malgré nous des fois, mais en général avec amour, pour servir Hachem, en même temps dans l'amour, et aussi un peu dans la crainte, en trouvant le juste équilibre. Shabbat shalom.
Shabbat shalom, Rav Gué. Et je crois me souvenir que c'est Rav Soloveitchik qui avait dit, alors que c'est un immense, c'est un homme d'une érudition exceptionnelle, c'est « Je n'aurais jamais su tout ce que je sais si je n'avais pas été obligé de donner cours. » Je crois que c'est lui qui a dit ça.
Voilà, c'est aussi une occasion, voilà, donner, sans pas s'imposer à donner un cours, à retranscrire un cours, retransmettre un cours. C'est aussi une très bonne idée que vous devez donner. c'est le Rav Moshe Shapira aussi qui nous disait toujours, lorsque tu n'as plus les pêches, impose-toi de donner un cours. Même si c'est à deux personnes, une personne, mais ça t'oblige et ça te donne aussi beaucoup de plaisir.
Magnifique, magnifique. Rav Guénou, on a toujours beaucoup de plaisir à vous écouter le vendredi soir sur Radio Shalom. Je vous remercie et je vous souhaite Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Au revoir.
Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom et je vous retrouve à 18h pour un journal complet enregistré.